Merci Anna pour la lecture. Content d'être avec vous les amis, je dois commencer en avouant ma faute. Le titre de la convention du 11 novembre, c'est pas pandémie ou miséricorde, mais c'est pandémie et miséricorde. Et c'est moi qui ai induit Steve en erreur. Donc voilà, la faute est corrigée et pardonnée, j'espère. Mais content d'être avec vous pour étudier ensemble ce psaume 46 à l'occasion du dimanche de Porte Ouverte, organisé par Porte Ouverte de l'église persécutée. Et il faut dire que c'est un dimanche qui est particulièrement approprié, je pense, pour nous d'ouvrir la Bible et de lire et de passer du temps à méditer le psaume 46. En fait, j'ai du mal à penser à un dimanche qui serait plus approprié pour chacun de nous, pour étudier ce psaume, le psaume 46. Et on a de quoi en ce moment, dans le monde dans lequel on vit et dans cette année 2020, en novembre 2020, là où on est, d'avoir de quoi craindre et de quoi être inquiet. Et il suffit d'ouvrir les infos pour ça, de regarder quelques minutes les infos. On entend parler cette semaine d'attentats, un attentat en Autriche, à Vienne, la semaine dernière, d'attaques répétées au couteau qui ont lieu à différents endroits en France, et toutes sortes de menaces qui pourraient nous faire craindre de la part de l'islamisme radical. On entend parler des élections aux États-Unis, de toutes sortes de bruits, de rumeurs, de bruits qui se soulèvent, de menaces, d'émeutes qui sont là et qui font craindre certaines personnes de débordements. Et tout ça se passe dans un contexte de crise sanitaire mondiale, avec un virus qui circule toujours, de confinement, avec aucune idée de quoi notre avenir sera fait, de quand on pourra retrouver une vie normale, avec aucune idée même de comment est-ce qu'on pourra passer Noël avec nos proches. Il y a de quoi craindre et de quoi être inquiet. Et dans cette crainte et cette inquiétude, on a besoin de repères. Et on se demande, mais où est-ce qu'on doit se tourner? Mais on pourrait parler aussi du contexte de notre église locale, avec plusieurs nouvelles, plusieurs épreuves tristes qui ont eu lieu récemment et qui nous pèsent, qui nous attristent, que ce soit dans notre église locale, dans l'association d'église, les décès de certaines personnes, la maladie pour d'autres, des événements, des choses qui se passent et qui nous rappellent de manière brusque que nous vivons dans un monde qui est profondément déchu, qui est marqué par les conséquences de la chute, qui ne tourne pas rond. Et alors que faire quand nos fondations sont bouleversées, quand la détresse vient frapper brusquement à notre porte? Et en plus, en ajoutant à tout ça, on ajoute l'occasion de ce dimanche, le dimanche de l'Église persécutée, 260 millions de chrétiens dans le monde entier qui sont persécutés à cause de leur foi, qui vivent des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer, comme on l'a entendu dans les témoignages, qui vivent des épreuves atroces et terribles. Et pour eux, comment est-ce qu'ils peuvent survivre? Comment est-ce qu'ils peuvent tenir bon? Où est-ce qu'ils se tournent pour garder espoir? Eh bien, pour eux et pour nous, le psaume 46 est approprié. On va voir que Dieu est notre refuge et qu'on peut mettre toute notre confiance en lui. Dieu est là, même dans la détresse. Et pas comme si Dieu était une invention des chrétiens pour aider les chrétiens quand ils souffrent, un peu comme une béquille pour les faibles, quelque chose qui allait les aider à traverser les épreuves de la vie, à garder espoir en imaginant un Dieu qui existe et qui prend soin d'eux juste pour qu'ils tiennent bon dans les épreuves. Non, en fait, ce psaume nous montre que Dieu est réel, que Dieu est vrai, que Dieu est là, et qu'il est pour nous, qu'il est un refuge pour ses enfants. J'aimerais qu'on voit trois choses ensemble à partir de ce psaume, que nous révèle ce psaume et qui complète cette idée, qui compose cette idée que Dieu est notre refuge et qu'on peut lui faire confiance même dans la détresse. On va voir la paix, la sécurité et la victoire. La paix, la sécurité et la victoire. Et donc premièrement, dans les versets 1 à 4, la paix de tous ceux qui se confient en Dieu, la paix. Et vous aurez ça probablement affiché à l'écran. Ce psaume commence, après l'introduction du psaume, avec une affirmation de qui Dieu est. Au verset 2, « Dieu est pour nous un rempart et un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. » Comme on l'a dit, c'est ça le but principal de ce psaume, de nous montrer que Dieu est un refuge pour son peuple, qu'il est un secours quand vient la détresse, quand vient le malheur. C'est un peu comme si vous marchez dans la rue et puis il y a une grande pluie qui vient à tomber. Il se met à pleuvoir, il pleut vraiment des cordes et vous êtes sous la pluie. C'est terrible, vous cherchez un abri, vous cherchez où vous réfugier. Et puis quand vous êtes chez vous, au chaud, avec une tisane dans les mains, au coin du feu, là tout va bien. Là vous êtes en sécurité, là vous avez trouvé un refuge et un abri. Eh bien c'est cet abri que Dieu est pour son peuple. Mais la détresse dont il est question dans ce psaume, c'est bien plus grand qu'une simple pluie qui pourrait tomber à Bruxelles. C'est quelque chose de bien plus grand. On voit dans les versets 3 et 4 Nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Le chaos est tel que les montagnes s'effondrent, que la terre elle-même est secouée. Les mers sont si agitées qu'elles vont jusqu'à faire bouger les sommets des montagnes. Bien sûr, c'est une image, mais est-ce qu'on peut penser à un chaos qui serait plus grand que ça? Et ce qui est surprenant, c'est qu'au milieu de cette détresse, au milieu de ce chaos, l'auteur de ce psaume dit « Nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. » Même si la terre est bouleversée, même si la mer venait faire trembler les montagnes, même si les montagnes elles-mêmes s'effondreraient et que je me retrouverais au milieu de tout ça, même pas peur. Même pas peur. C'est surprenant. Pourquoi ? Comment est-ce que celui qui écrit ce psaume peut avoir une telle confiance ? Qu'est-ce qui est suffisamment puissant pour chasser les craintes, nos craintes, qui seraient légitimes ? Mais on voit qu'au début du verset 3, il y a un petit mot, aussi, dans la version Summer, ou peut-être chez vous, c'est pourquoi. Et ça nous montre que la raison se trouve dans le verset 2. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Parce que Dieu est notre refuge, alors on n'a rien à craindre. Et Dieu est un secours, un refuge toujours offert lorsque survient la détresse. Il est prêt à être là pour qu'on trouve refuge en lui. Et quand on se réfugie en lui, on voit qu'il est suffisant pour chasser nos craintes. En trouvant refuge en Dieu, on ne trouve pas refuge dans une vieille cabane en bois, chancelante au fin fond de la forêt. Non, on verra plus tard que Dieu est pour nous une citadelle. Ce psaume nous montre qu'il est l'Éternel des armées célestes, le Dieu de Jacob. Nous trouvons refuge en celui qui a créé l'univers par la puissance de sa parole, en celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, en celui qui maîtrise la création, les puissances célestes et tous les êtres humains, qui maîtrise tout ce qu'on pourrait craindre et tout ce qu'on pourrait redouter. Et ce secours de Dieu chasse nos craintes. En trouvant secours en Dieu, refuge en Dieu, nos peurs et nos craintes se dissipe. Sa présence est suffisante parce qu'on sait qu'il tient le monde, l'univers et l'histoire dans sa main. Rien ne lui échappe. Il ne fait pas d'erreur. Un peu comme un petit enfant qui marcherait dans la rue et puis il croise un chien et il a vraiment peur des chiens et il serait terrifié, terrorisé et il court se jeter dans les bras de son père. Et là, tout va bien quand il est dans les bras de son père. Même si le danger est toujours là, même si le chien est toujours là. Mais il sait que son père, il peut lui faire confiance. C'est un refuge suffisant, il n'a rien à craindre. Et c'est encore plus vrai en ce qui concerne Dieu. Et cette expérience, c'est ce que pouvait témoigner l'auteur de ce psaume, mais c'est aussi ce que peuvent témoigner nos frères et sœurs persécutés de par le monde. Comme on l'a dit, on essaie de se souvenir ce dimanche de manière particulière de nos frères et sœurs persécutés dans le monde, et c'est juste frappant de voir qu'ils sont au milieu du chaos. Ils sont mis en prison, séparés de leur famille, torturés, rejetés, mis à mort à cause de leur foi, en proie aux dangers quotidiennement, aux menaces. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils font preuve d'une paix qui est incroyable, une paix qui nous dépasse. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Mais c'est tout simplement parce qu'ils connaissent Dieu comme leur bon Père céleste. Et c'est parce qu'ils peuvent dire, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de la part de Porte Ouverte, justement, qui parlait de ce qui se passait en Inde. On a vu une vidéo par rapport à l'Inde, c'est assez terrible, la manière dont les chrétiens sont persécutés là-bas, et qui parlait d'événements qui sont passés fin septembre, où il y avait eu des émeutes qui ont été soulevées contre les chrétiens qui étaient accusés d'avoir adopté une religion étrangère. Et il y avait une foule de 2 à 3000 personnes qui s'est soulevée, qui menaçaient ces chrétiens, qui les accusaient, qui criaient. Il y a la maison de 15 familles chrétiennes, des maisons qui ont été détruites. Plusieurs personnes ont été frappées et ont dû fuir. Et on ne peut juste pas imaginer de vivre ça. Si on imaginait de vivre ça ici, dans notre quotidien, que 2 à 3 000 personnes se soulèvent contre nous, profèrent des menaces, viennent détruire notre maison, nous frappent et qu'on doit fuir. Mais c'est ce qu'ils vivent. Et j'étais frappé de voir le témoignage d'un de ces chrétiens qui avait été frappé lui-même, que Porte Ouverte rapportait et qui disait ceci. Juste une petite phrase, mais 2-3 petites phrases, mais assez puissantes. Oui, nous avons peur, mais seulement un peu. Dieu est avec nous. Non, je ne quitte pas Jésus-Christ. Oui, nous avons peur, mais seulement un peu. Dieu est avec nous. Comment est-ce que c'est possible de réagir de cette manière? Bah, seulement avec les vérités du psaume 46. Si Dieu est notre refuge, il réalise que Dieu est là. Il ne tombe pas dans l'anxiété, il ne tombe pas dans la crainte. Et ça, je pense que c'est une belle leçon pour nous de voir comment ils réagissent face à ces épreuves et comment ils s'accrochent à Dieu comme leur refuge. Je mentionnais qu'on a des raisons suffisantes en ce moment de craindre, de ressentir de l'anxiété, d'avoir le cœur qui est serré par rapport à tout ce qui se passe autour de nous dans cette année 2020. La crainte que nous, nos proches, on attrape ce virus qui circule. La crainte de ne pas savoir quand cette crise sanitaire se terminera, quand on pourra retrouver une vie normale, quand on pourra enfin passer du temps avec ceux qu'on aime. La crainte de la solitude qui risque de peser encore sur nous pour plusieurs semaines, voire pour plusieurs mois. La crainte de plus se sentir en sécurité peut-être quand on sort de chez nous. La crainte d'un prochain attentat qui pourrait nous toucher ou toucher des personnes qu'on connaît, qu'on aime. La crainte de voir le monde changer, de voir les normes morales évoluer et de se dire « mais dans quel monde est-ce que mes enfants, mes petits-enfants vont grandir ?» La crainte d'un avenir qui est flou, qui est incertain. Puis en plus de tout ça, la crainte de notre propre péché, de notre lutte au quotidien, de se dire « mais est-ce que je vais tenir jusqu'au bout ?» Ou alors la crainte de nos mauvais choix, où on voit les conséquences de choix qu'on a fait ou qu'on risque de faire. On a des raisons suffisantes de craindre et d'avoir le cœur anxieux, de céder à la panique. Mais ce n'est pas ce que ce psaume nous invite à faire. Ce psaume nous invite plutôt à dire « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien. » Dieu est notre refuge, il est toujours là, on peut se confier en lui. Et on n'a pas à réagir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme ceux qui ne connaissent pas ce Dieu-là. La paix de tous ceux qui trouvent leur confiance, qui mettent leur confiance en Dieu. Mais deuxièmement, dans ce psaume, dans les versets 5 à 8, on voit la sécurité de ceux qui se confient en Dieu, la paix de ceux qui se confient en Dieu, et ensuite la sécurité de ceux qui se confient en Dieu. En fait, il y a un contraste assez marquant dans ces versets par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Juste avant, au verset 4, 3 et 4 en particulier, il était question d'eau agitée, d'eau qui gronde, d'eau qui bouillonne, qui font trembler les montagnes. Et au verset 5, qu'est-ce qu'on a ? Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Il est question d'un fleuve qui est calme, d'un fleuve qui est paisible, d'un fleuve qui est tranquille. On passe d'eau tumultueuse à un fleuve qui est calme et qui procure la joie. Il est question d'une ville dans ces versets, une ville où Dieu habite, où Dieu est présent. Dieu réside au milieu d'elle, il est dit. Mais on voit ça aussi justement avec la mention du fleuve qui est au milieu de la ville. On a ici un rappel de ce qu'on voit plus tôt dans la Bible, dans Genèse 2, dans le jardin d'Éden, où il y avait un fleuve qui passait au milieu du jardin. Et on a un avant-goût de ce qui se passera dans la gloire à venir, dans l'Apocalypse, où il est question aussi d'un fleuve qui sort du trône de Dieu lui-même et qui passe au milieu de la cité céleste. Donc cette ville, c'est un moyen de parler de la présence de Dieu qui assure la paix, qui assure la tranquillité. Ceux qui sont dans la présence de Dieu sont dans cette ville et c'est le meilleur endroit où habiter parce qu'on est en sécurité. C'est le meilleur endroit où être. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Oui, il y a des peuples qui s'agitent, on le voit avec le verset 7, oui, il y a des ennemis qui assiègent la ville, mais ils n'ont aucune chance de gagner. Ils n'ont aucune chance de gagner d'abord en raison de la puissance de Dieu. Vous avez vu le verset 7, ce qu'il est dit, la voix de Dieu retentit, et qu'est-ce qui se passe ? Et la terre se dissout. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Dieu fait à peine entendre sa voix et la terre se dissout. Il n'est pas dit ici qu'il crie. Il n'est pas dit ici qu'il agit avec beaucoup de force, qu'il se lève pour faire quelque chose. Non, il fait retentir sa voix et la terre s'effondre. Qu'est-ce que ça nous montre sur la puissance de ce Dieu-là ? Si rien qu'avec sa voix, rien qu'avec une parole de sa bouche, il peut faire effondrer la terre. Les ennemis sont là, ils assiègent la ville, mais ils n'ont aucune chance de gagner. Certains aujourd'hui essayent d'éteindre le christianisme, de faire disparaître la Bible, d'enlever toute notion de Dieu, d'empêcher de parler de Jésus. Mais en se battant contre Dieu, ils n'ont aucune chance de gagner, même en s'agitant de toute leur force. Mais encore, les ennemis de Dieu n'ont aucune chance de gagner parce que ceux qui se confient en Dieu sont hors d'atteinte. Non seulement Dieu est puissant, mais ceux qui se confient en ce Dieu puissant sont hors d'atteinte. On voit ça avec le verset 8 qui est une sorte de refrain dans ce psaume. Il reviendra aussi au verset 12. Les deux versets sont similaires. Qui dit « Avec nous est l'Éternel des armées. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. » La bonne nouvelle de ce psaume, c'est pas simplement que Dieu est souverain et tout-puissant, mais c'est que Dieu est souverain, qu'il est tout-puissant et qu'il nous est favorable. Le verset 8 dit « Avec nous est l'Éternel des armées ». Il est avec nous, il est pour nous, il est en faveur de son peuple, il n'est pas contre nous. Et on voit qu'il est le Dieu de Jacob, celui qui a tenu et qui tient encore ses promesses envers son serviteur, même dans la détresse. Dieu est un refuge pour ceux qui se confient en lui. Et il est pour eux une citadelle. Et là, l'image est forte, l'image d'une citadelle. C'est une forteresse qui est en hauteur pour que ceux qui sont dans cette citadelle sont vraiment hors d'atteinte. Ils n'ont aucun moyen d'être atteints, d'être en danger. Il peut y avoir une foule d'ennemis qui est en bas, mais on est quand même en sécurité si on est dans la citadelle. Et c'est pour ça que les ennemis de Dieu n'ont aucune chance de gagner. Non seulement parce que Dieu est tout-puissant, mais aussi parce que ceux qui se confient en Dieu sont hors d'atteinte. Et cette sécurité, cette confiance, cette assurance que Dieu est pour nous, c'est l'assurance que nous avons en tant que chrétiens. Ce psaume ne promet pas, et la Bible ne promet pas, que si nous trouvons refuge en Dieu, nous n'aurons aucune détresse, aucune épreuve, que nous ne connaîtrons jamais la mort. Non, ce psaume dit justement que dans la détresse, Dieu est notre sécurité. Depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont souffert pour leur foi, qui ont été persécutés, qui ont été rejetés, qui ont été mis à mort, mis en prison, qui ont vécu des détresses parfois indescriptibles. On peut se demander, mais alors, en quoi est-ce que Dieu est notre sécurité? Qu'est-ce que Dieu promet? Et là, on peut se tourner en allant plus loin dans la Bible, vers les promesses vers lesquelles pointe ce psaume, dans Romains 8, où on voit l'application parfaite de cette sécurité. On a lu ça, Steve a lu ça tout à l'heure. J'aimerais juste relire 2-3 versets de Romains 8 qui nous parlent de cette sécurité. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Verset plus loin, verset 38, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La sécurité que nous avons, c'est une sécurité qui est ancrée dans ce que Jésus a fait sur la croix, qui est ancrée dans ce qui s'est passé à Golgotha, il y a plus de 2000 ans, où le juste est mort pour des injustes, où Jésus nous a donné accès à la présence même de Dieu, nous a déclarés justes pour toujours. Et nous sommes en sécurité dans cette position devant Dieu, dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, dans le cœur bien-aimé du Père envers nous. Les hommes peuvent prendre le corps et la vie physique, mais ils ne peuvent pas prendre l'âme et la vie spirituelle. En tant que chrétiens, nous sommes en sécurité. Richard von Braun, c'est le fondateur de la Voix des Martyrs, c'est une organisation un peu comme Porte Ouverte qui œuvre pour les chrétiens persécutés dans le monde, et lui-même a passé 14 ans en prison en Roumanie sous le régime communiste à cause de sa foi. Et il dit ceci, « Ils ont essayé de nous tuer, mais ils ne peuvent tuer que le corps. Nous ne sommes pas uniquement des corps, nous sommes aussi des esprits, et l'esprit ne peut pas être tué. Mourir pour Christ, en aimant Christ, signifie d'aller dans la gloire et d'aller vers Christ. » Ceux qui sont dans la présence de Dieu n'ont rien à craindre, même au milieu du danger, même au milieu de la persécution, ils sont en sécurité. Je me souviendrai toujours, il y a quelques années, j'étais au Cameroun, et on était au nord du Cameroun, enfin dans l'Adamawa, la région un peu avant le nord, pas tout à fait au nord, parce que justement dans le nord, c'est une région pas super pour les chrétiens, où Boko Haram sévit, et il y a beaucoup de persécutions. Et on a rencontré un homme qui avait été extradé de cette région-là par Porte Ouverte, justement, et qui nous parlait de tout ce qu'il avait vécu. Il était devenu chrétien, il avait découvert l'Évangile, il avait décidé de suivre Jésus. et ça lui avait entraîné toutes sortes de problèmes et de soucis. On lui avait enlevé sa femme et ses enfants, il avait perdu tout ce qu'il avait. On avait essayé de le tuer, il a été délivré miraculeusement plusieurs fois. Et il a vraiment perdu tout ce qu'il avait, on l'a chassé, on l'a enlevé tout ce qu'il avait. Et j'étais frappé de voir qu'alors qu'il nous racontait son histoire, alors qu'il nous parlait de tout ça, il y avait une joie et une paix qui se dégageaient de sa personne. Il avait quelque chose, on voyait que les gens ne pouvaient pas lui ôter. Il avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu sa foi en Jésus et cette assurance qu'il était en sécurité auprès de Dieu. Et ça m'a tellement encouragé, et ça montre qu'on a beaucoup à apprendre de nos frères et sœurs persécutés, nous qui avons tout. Dans un sens, c'est plus facile de mettre notre sécurité en Dieu seul quand on n'a plus rien d'autre que quand on a tout. Mais on doit apprendre à mettre notre sécurité au bon endroit, dans l'amour de Dieu manifesté en Christ, dans la présence de Dieu qui ne change pas. Pas dans notre compte en banque ou notre sécurité financière, se dire que tout va bien parce qu'on peut tenir à un certain niveau de vie. Mais si ça m'est ôté, alors qu'est-ce qui se passe ? Pas ma sécurité dans une carrière, dans un poste bien établi, auquel on s'accroche et où on s'y donne sans arrêt parce que c'est là qu'on se sent bien, c'est là qu'on est heureux. Pas ma sécurité dans ma vie de famille, en pensant que c'est quelque chose que Dieu me doit. Et si mon petit cocon familial vient à être bouleversé, alors rien ne va plus. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais ce n'est pas là qu'on doit trouver notre sécurité, ce n'est pas là que notre âme doit se reposer. Pas non plus ma sécurité dans l'opinion que les gens ont de moi. Ah, tant que les gens pensent du bien de moi, ça va. Mais à partir du moment où je viens à faire une faute, si je viens à perdre des points dans l'estime des gens, bah alors tout s'écroule. Non, mettre sa sécurité dans ces choses, ce serait comme essayer d'atteindre le ciel en grimpant sur une pile de carton. Ça ne va pas marcher. C'est instable. On va s'effondrer un jour ou l'autre. Mais même quand on n'a rien de tout ça, on peut être en sécurité, en paix, dans la présence de Dieu. Et nos frères et sœurs persécutés nous le montrent. Ils n'ont rien de tout ça, mais ils prouvent que Dieu est leur citadelle, qu'ils sont en sécurité dans l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et enfin, dernièrement, dans ce psaume, on voit la victoire dans les versets 9 à 12. La victoire de Dieu lui-même, mais aussi de ceux qui se confient en Dieu. La victoire. La dernière partie de ce psaume nous appelle à contempler ce que Dieu a fait. Il a fait cesser les combats, il a amené la paix sur la terre. Mais on voit qu'il a fait ça au travers du jugement. Il est question dans le verset 9 de ravages qu'il a opérés. Et au verset 10, on lit qu'il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. Et comment est-ce qu'il a fait ça ? L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Peut-être que ça fait référence à un moment précis de l'histoire du peuple d'Israël, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que ces versets sont un avant-goût de l'intervention ultime de Dieu. Il est question de quelque chose d'universel ici. Jusqu'aux confins de la terre, il a fait cesser les combats. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ça évoque le moment où Dieu va amener la paix définitive sur la terre au travers du jugement définitif. Du moment où Dieu va intervenir pour faire cesser la haine, cesser les combats, cesser les guerres, cesser les persécutions envers les chrétiens, envers son peuple. Et quel encouragement de se rappeler qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il règne sur son trône et qu'il interviendra pour amener toute justice sur la terre. Quel encouragement pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde, qui souffrent et qui disent « Jusqu'à quand ?» Quel encouragement de savoir que la victoire finale viendra. Cette intervention de Dieu, elle sera une bonne nouvelle pour certains, pour ceux qu'il avait pris pour refuge, pour ceux qui avaient reconnu son autorité sur leur vie, pour ceux qui sont disciples de Jésus, qui sont enfants de Dieu. Mais ce sera une mauvaise nouvelle, une nouvelle terrible pour d'autres. Pour ceux qui ont vécu leur vie loin de Dieu, ou pour eux-mêmes, parce que cette intervention de Dieu entraînera le jugement, un jugement complet et définitif. Et c'est pour ça qu'il faut y prêter attention maintenant. On voit le verset 11 qui dit « Arrêtez !» C'est Dieu qui parle. « Arrêtez !» dit-il. « Reconnaissez-moi pour Dieu !» Si on prend ce verset dans le contexte de ce psaume, ce n'est pas une invitation douce de la part de Dieu au silence, à faire une retraite spirituelle, à chercher Dieu de manière particulière avec une quête mystique. Non, en fait, dans le contexte de ce psaume, c'est un reproche. C'est une intervention radicale de la part de Dieu, où Dieu agit et dit « Arrêtez !»« Stop !» c'est fini. Un peu comme deux enfants qui seraient en train de jouer avec des jouets et qui se mettent à se disputer. Et l'un des parents arrive et dit, c'est fini les enfants, je vous retire les jouets maintenant, vous arrêtez. C'est un peu le cas de ce verset dans ce psaume où Dieu agit, Dieu proclame sa victoire, son intervention par la force pour que les êtres humains reconnaissent que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui règne sur le trône de l'univers. C'est lui qui est Dieu, qui est le Créateur. Et nous ne sommes que des créatures. Arrêtez un mode de vie qui est contre Dieu, qui déplaît à Dieu. Arrêtez de combattre contre le maître de l'univers. Arrêtez de vivre dans l'indépendance vis-à-vis de votre Créateur. Arrêtez de porter un masque pour cacher la corruption de votre cœur. C'est le moment, avant qu'il soit trop tard, de se détourner d'un mode de vie qui est contre Dieu et de se tourner vers Dieu, de placer notre confiance en Jésus, en sa mort sur la croix, pour être en bonne relation avec Dieu. Comme disait un commentateur, ce psaume, c'est un encouragement pour ceux qui ont confiance en Dieu, mais c'est un challenge qui est lancé pour ceux qui ne se soucient pas de Dieu et qui vivent loin de lui. Et ce psaume nous montre, comme on l'a déjà évoqué, un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, un Dieu dont le plan s'accomplira. Et on voit ça dans ces versets, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui qui sera victorieux. C'est inutile et vain de s'opposer à son plan. On voit à la fin du verset 11 que Dieu dit « Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre ». Peut-être que vous avez dans votre version « Je dominerai sur les peuples, je dominerai sur la terre ». Je pense qu'ici, il faudrait plutôt lire « Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre, je serai exalté ». C'est Dieu qui proclame sa victoire et qui sera exalté par tous les peuples de la terre. Et c'est une chose qu'on voit en lisant la Bible, que Dieu est digne d'être adoré et exalté par tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre. Et c'est pour ça qu'on est appelé à annoncer l'Évangile au monde entier. C'est le plan de Dieu de racheter un peuple qui est issu de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation de la terre. Et son plan s'accomplira. On pense peut-être aux 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On pense à la Corée du Nord et à tellement d'autres pays qui nous semblent fermés à l'Évangile. Et on se dit, mais comment ? Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que Dieu est réellement souverain ? Et puis on prend le temps de réfléchir et de s'intéresser à ce qui se passe réellement dans le monde. Et on voit que, dans un sens, les pays qui sont le plus persécutés, c'est presque là où l'Évangile progresse le plus, où les gens deviennent chrétiens. Parce que la persécution ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Dieu est souverain et il continue à racheter dans le monde des hommes et des femmes au travers de la progression de l'Évangile. Et si on veut un exemple concret de ça, on peut penser à la Corée. Pendant longtemps, on se disait que c'est un peuple qui est totalement fermé à l'Évangile. C'est impossible d'annoncer l'Évangile en Corée, qu'il y ait des chrétiens là-bas. Et puis aujourd'hui, on pense à la Corée du Sud, bien sûr, où il y a 29% de chrétiens. Et c'est le deuxième pays dans le monde à envoyer des missionnaires après les États-Unis. Dieu a été puissant pour agir. On peut même penser à la manière dont l'Évangile a pénétré là-bas en Corée, où on voit vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre. C'était un jeune homme, Robert Thomas, avec une équipe, un Écossais de 27 ans. Ils ont mis en place une grande opération pour aller livrer des Bibles là-bas en Corée, pour débarquer sur la plage et livrer plein de Bibles. Ils ont mis en place cette opération, c'était en 1866. Et quand le bateau s'est approché, il y avait plein de gardes-côtes coréens et qui ne voulaient pas que d'autres personnes rentrent sur leur territoire et qui sont mis à tirer sur le bateau pour tuer les gens qui étaient là et qui essayaient de faire ça. Et la plupart des gens sont morts sur le coup, mais Robert Thomas, il a réussi à s'échapper, à plonger et à atteindre jusqu'au rivage avec une ou deux Bibles, quelques Bibles dans les mains. Et il a vu un garde-côte qui était là et il lui a tendu, il lui a dit « Mais tiens, lis ça !» Le garde-côte a hésité. Puis après quelques secondes, il a accompli son devoir de soldat, il a tué ce jeune homme. Et là, on peut se dire, mais voilà, on l'avait dit, c'est impossible que l'Évangile pénètre en Corée. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Et puis, on prend le temps de regarder ce qui s'est passé après. Du coup, il y a toutes ces Bibles qui sont échouées sur le rivage, sur la côte, et le papier de ces Bibles a été utilisé pour être du papier peint dans les maisons des Coréens. Donc, c'était le papier peint des maisons, et puis au bout d'un moment, les gens, ils se sont mis à lire ce qu'il y avait sur leurs murs. Et en se mettant à lire ce qu'il y avait sur leur mur, ils sont mis à découvrir l'Évangile. Et ils sont devenus chrétiens. Pas tous, bien sûr, mais quelques-uns sont devenus chrétiens. Et quand les missionnaires, plus tard, sont arrivés dans le pays, ils ont vu qu'il y avait déjà des chrétiens, grâce à ces Bibles qui avaient été mises sur les murs. Dieu est souverain pour accomplir son plan. Dieu sera exalté parmi les nations. Son projet s'accomplira, même malgré la persécution, même malgré les ennemis du peuple de Dieu. Et ça, c'est notre encouragement et notre espérance. Et en attendant, on réalise que son plan passe par l'annonce de l'Évangile dans le monde, qui, oui, coûte la vie et la persécution à tellement de chrétiens. Mais il sera exalté parmi les nations. La victoire viendra. Et donc, en attendant, le fait qu'il est souverain nourrit notre espérance. Et on veut se confier en lui, ce refuge qu'il est pour nos frères et sœurs persécutés, mais aussi pour nous, dans nos craintes, dans nos anxiétés, dans ce monde qui ne tourne pas rond, dans cette année 2020 qui est si particulière. J'aimerais juste terminer en parlant rapidement de Martin Luther. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est vraiment approprié parce que Martin Luther, donc le réformateur du XVIe siècle, c'était un de ses psaumes favoris, le psaume 46. Et c'est sur ce psaume, c'est de ce psaume qu'il s'est inspiré pour composer son cantique le plus célèbre, « C'est un rempart que notre Dieu ». Et Martin Luther, il n'avait pas une vie facile. Non seulement sa vie physique était mise en danger, parce qu'il était contre l'Empire à l'époque, ou l'Église catholique romaine à l'époque, et sa vie physique était mise en danger. Ensuite, il avait le poids de tout ce qu'il devait affronter, les débats, les controverses, où il voulait défendre la vérité de l'Évangile. Il vivait dans une société aussi où la peste noire circulait, où la mort était omniprésente pour lui-même, pour ses enfants, pour ceux qu'il aimait. Puis en plus de ça, sa vie personnelle, sa lutte avec le péché et beaucoup d'épisodes de dépression par lesquels il passait. Mais il trouvait du réconfort dans ce psaume 46. Et on dit de Luther que quand il était découragé ou quand il entendait une nouvelle décourageante, il disait à son ami Philippe, Philippe Mélenchon, il disait « Viens Philippe, chantons le psaume 46. » Et il se rappelait ses vérités. Dieu est pour nous un rempart, un secours toujours présent dans la détresse. Peut-être qu'on ferait bien d'imiter Luther là-dedans, quand on est face à une nouvelle décourageante, quand nos cœurs se resserrent par l'anxiété, quand on est pris par des craintes. Plutôt que de river nos yeux sur les écrans, sur les dernières nouvelles, sur d'autres choses, nous recentrer sur nous-mêmes, peut-être de dire « Viens, lisons le psaume 46. Viens, adressons-nous au Dieu du psaume 46. » Il est pour nous un rempart, un refuge, un secours toujours présent dans la détresse. Je vous invite à faire ça maintenant, justement, à nous adresser au Dieu de ce psaume 46. Je vais prier pour terminer. Mais notre Dieu, nous te remercions parce que tu es pour nous et tu n'es pas contre nous. Merci parce que tu es notre refuge, notre rempart, notre réconfort, même quand survient la détresse, même au milieu du chaos, même au milieu de l'épreuve. Notre merci parce que ce refuge que tu es pour nous, c'est uniquement par ta grâce. C'est toi qui as envoyé ton Fils sur cette terre pour nous sauver, pour nous racheter. Notre merci pour l'amour de Christ dont on est l'objet. Notre merci pour son œuvre à la croix qui garantit notre sécurité, notre bonne relation avec toi. Et parce qu'à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, on peut être certain que tu nous garderas jusqu'au bout. En sécurité. Et en attendant, on te prie que pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde, au milieu des détresses et des épreuves, on puisse rapidement trouver refuge en toi, dans ce Dieu que tu es qui est bon et qui est souverain. Et on prie cela dans le nom de Jésus. Amen.